BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedrazzi.
Dernière ligne droite à la Bourse de Paris, il reste une demi-heure de cotation. Étienne Brack en direct d'Euronext, on flirte avec la barre des 8000 points. C'est le titre LVMH qui progresse toujours, mais beaucoup moins qu'il y a une heure et demie, deux heures.
Oui, à croire que les Américains étaient jaloux à 15h30 de la forte hausse du CAC 40, puisque figurez-vous que depuis l'ouverture de Wall Street, vous avez un CAC 40 qui réduit ses gains au point presque qu'il a perdu les 8000 points. 7 995 points à l'instant, c'est une hausse de 0,8%. Un CAC 40 qui a 7 999 points. Un Eurostox 50 qui progresse de 0,2%, qui est impacté par ASML, qui est sur les plus bas niveaux de la séance, avec le spécialiste des machines pour fabriquer des puces qui perd quasiment 7% après un résultat en dessous des attentes et surtout un groupe qui confirme ses objectifs pour cette année. Du côté de Wall Street, vous avez trois indices qui sont parfaitement stables, avec notamment le géant Nvidia qui pèse sur la tendance, moins 1,5% après la publication de ASML. À noter l'obligataire qui se détend très légèrement, le pétrole, moins 1% sous les 90$.
Le retour de l'inflation complique la stratégie de la Réserve fédérale américaine. Son président Jerome Powell reconnaît que les membres de la Fed ne sont pas suffisamment confiants dans la trajectoire de l'inflation pour pouvoir baisser les taux aux États-Unis, de quoi relancer les spéculations sur un statu quo monétaire jusqu'aux élections en novembre. La BCE, de son côté, peut-elle jouer sa propre partition et baisser ses taux de manière indépendante? Christine Lagarde l'a une nouvelle fois rappelé, elle est dépendante des données macroéconomiques et pas de la Fed. Mais est-ce totalement vrai en pratique? On va en débattre dans un instant avec nos invités du club. N'oubliez pas, tout à l'heure, 17h35, on refait la séance avec nos invités. On reviendra sur la publication de LVMH. Le marché a réagi en deux temps, d'abord à la baisse, puis le titre s'est orienté à la hausse. On vous parlera également de Richebourg qui avertit et de Orpea qui a toujours du mal à remplir ses maisons de retraite.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Les deux clubbeurs de ce mercredi soir, Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-François, Geoffroy Lenoir, co-directeur des gestions OPC, OFI, Invest Asset Management. Bonsoir et merci. Bonsoir. Également d'être avec nous. Le retour de l'inflation aux États-Unis, je le disais en titre, ça complique sérieusement la stratégie de la Fed. Jérôme Powell l'a dit, en l'état, on ne connaît pas la trajectoire de l'inflation de manière suffisamment claire pour pouvoir baisser les taux. On commence d'abord, dans l'ordre, Jean-François Robin, par le retour de l'inflation. D'où vient ce retour de l'inflation et quelle est l'ampleur du risque aux États-Unis?
On voit depuis quelques mois les chiffres qui, les uns après les autres, vont dans le même sens, c'est-à-dire une très très bonne résistance, une résilience de l'économie américaine. Et on avait tous un peu en tête que le consommateur américain avait un peu cramé la caisse et un peu dépensé toute son épargne accumulée et que le taux de chômage allait remonter. Bref, que du coup, la consommation était amenée à ralentir. On voit cette semaine, finalement, le chiffre le plus important, c'est presque pas l'inflation parce qu'il y a beaucoup d'effets toujours un peu spécifiques, notamment les loyers, les prix de l'énergie quand on regarde l'inflation totale, etc., qui sont un peu volatiles avec ce qui se passe. En revanche, là où c'est hyper important, c'est ce que fait le consommateur. Et là, on voit les ventes au détail aux États-Unis qui sont loin de ralentir, qui sont plutôt loin de recommencer à remonter. Et donc, on a ce chiffre d'inflation qui, lui, remonte aussi. Donc, tout ça mis bout à bout, chez nous, chez Natixis, comme la plupart des institutions, je crois, on a révisé assez drastiquement le scénario.
Ouais. Vous êtes sur un scénario, on regardait tout à l'heure un post sur X, ex-Twitter. Vous êtes plutôt dans ceux qui pensent qu'on peut encore avoir un soft landing ou dans le no landing maintenant?
Là, on est plutôt dans un no landing. Nous, on a révisé assez fortement à la hausse nos prévisions de croissance tout au long de mois après mois. Je disais, comme toutes les données qui arrivaient étaient plutôt bonnes. Là, aujourd'hui, on est sur un taux de croissance attendu pour les États-Unis autour de 2,1, ce qui correspond à peu près au taux de croissance potentielle de l'économie américaine. Donc, on est plus proche du landing sur la nouvelle normalité. Alors, donc, c'est un no landing plutôt. C'est-à-dire que l'économie américaine se stabilise sur ces chiffres. Et donc, si on a ça, une inflation qui a maintenant du mal à baisser, honnêtement, nous, on avait un scénario de 4-5 baisse des taux, on est passé à 2 et ce ne sera pas avant le mois de septembre. Et Jérôme Powell l'a complètement validé avec ses propos d'hier soir. Donc, on est vraiment dans un changement assez radical du scénario et on parlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis sont un peu tout seuls au monde. Le reste du monde va faire un peu différemment des États-Unis probablement.
Il y a une décorrélation qu'il va falloir.
Un découplage, une décorrélation, mais peut-être pas un dérisking. Et donc, attention.
Geoffroy Lenoir, est-ce que le risque de retour de l'inflation concerne uniquement les États-Unis ou est-ce qu'en Europe, on peut avoir ce risque à travers notamment les matières premières. On a vu que le pétrole était toujours aux environs de 90 dollars sur le baril de Brent. Certaines matières premières ont vu leur cours repartir à la hausse. Est-ce que ça représente un risque pour nous en Europe ?
Oui, c'est un risque en Europe, c'est un risque global. Alors après, c'est pas simplement au vu des chiffres d'inflation qu'on a eu aux États-Unis. C'est sûr qu'on a un contexte géopolitique qui a changé. Donc ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais pour revenir sur les données d'inflation aux États-Unis, je rappelle simplement qu'on est dans un rythme de désinflation depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres maintenant, qui est avéré et qui doit perdurer selon nous. Après, c'est sûr, ce qu'on dit depuis plusieurs mois maintenant, c'est que le bout de chemin qui reste à faire en termes de désinflation, c'est le plus dur à faire. Et c'est vrai que là, on marque un coup d'arrêt, on marque une reprise de l'inflation aux États-Unis, et ça vient contrarier les plans de la Réserve fédérale américaine et des investisseurs dans l'ensemble. En zone euro, on a moins cette problématique-là. On est sur une inflation qui doit se diriger gentiment vers la cible de la Banque Centrale Européenne. On ne la remet pas en cause aujourd'hui. Donc on a cette divergence, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais on ne remet pas en cause à aujourd'hui les prévisions d'inflation côté zone euro et les perspectives de baisse de la Banque Centrale Européenne. Il faut voir que il y a peut-être des effets de bord qui risquent de se matérialiser d'ici quelques trimestres à travers les prix des matières premières, comme vous le disiez, ou les prix du pétrole. Mais à aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour valider un scénario où l'inflation européenne serait matériellement plus élevée et un scénario où la Banque Centrale Européenne ne devrait pas baisser ses taux comme la Réserve Fédérale Américaine.
On a eu ce matin les chiffres des prix à la consommation dans la zone euro. Confirmation qu'en mars, on était bien retombé à 2,4%. On était à 2,6% en février, 2,8% pardon, en janvier. Pour l'instant, nous, on est toujours sur une décélération.
Surtout, faut se rappeler ce que tous on est en tête, hein, c'est qu'on vient de 10,7% d'inflation. Donc le choc, il a été hyper violent à la hausse, mais finalement, il est très rapide à la baisse. Donc aujourd'hui, on peut même se poser la question de qu'est-ce qui a fait baisser l'inflation si fort. Mais aujourd'hui, avec une inflation à 2,4, alors que la BCE, on le rappelle, a changé d'objectif. Son objectif, c'est plus d'être sous les 2%, c'est d'être proche tout simplement des 2%. Donc honnêtement, à 2,4, vu la dynamique, hein, où on passe de 2,9, 2,6, 2,4, et on pense que ça devrait continuer, même si Christine Lagarde l'a dit, il y aura sûrement des petits soubresauts dans les mois à venir. Hein, voilà,
on va parler de boss.
On voit bien que les prix du pétrole montent, que l'euro baisse, il y a sûrement des choses qui vont rentrer en ligne de compte. Mais honnêtement, la perspective inflationniste, elle est en train de disparaître, comme en Europe, avec le ralentissement, l'Allemagne, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses qui pointent vraiment vers la continuité du mouvement de normalisation de l'inflation.
Et l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentation, énergie et les composantes volatiles, est à 2,9% en zone euro, très très loin du niveau actuel aux États-Unis.
Oui, et en fort ralentissement. Là aussi, ça va plus vite que même la BCE ne le pensait.
Alors, quelles conséquences en matière de politique monétaire ? On en parlait, hein, Jerome Powell, nous dit la trajectoire de l'inflation n'est pas assez claire à ce stade pour envisager de baisse de taux. C'est quoi ? C'est un clou supplémentaire dans le cercueil pour nous dire, attention, le statu quo jusqu'à la fin de l'année, ça fait partie des hypothèses.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on avait noté depuis le début de l'année, c'était que Jerome Powell avait indiqué clairement qu'en 2024, il y aurait des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. Là, aujourd'hui, le marché constate que finalement, ce n'est pas 3, 4, 5 ou 6 baisses sur 2024 qu'on va avoir, mais peut-être une ou deux. C'est ce qui est anticipé par le marché aujourd'hui.
Hein, est-ce que ça aurait du sens de baisser seulement les taux une fois de 0,25 ? On sait que l'impact est très limité.
Ça peut avoir un effet un peu psychologique. Hein. Le fait de acter, le fait qu'on soit sur un plateau et que le prochain mouvement c'est une baisse. Parce qu'on peut entendre aussi des économistes aujourd'hui qui vont nous dire en fait ils vont peut-être pas baisser, ça va être une hausse. Bon, on n'adhère pas à ce scénario-là aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un risque qui peut se développer dans le marché. Aujourd'hui on reste sur le scénario que le prochain mouvement de la Réserve fédérale américaine c'est une baisse. Et on estime que à aujourd'hui, la Réserve fédérale doit quand même baisser ses taux cette année étant donné le contexte économique, même si on voit que la croissance tient bien, hein, la consommation des ménages tient bien. On a quand même des signaux un petit peu sous-jacents qui nous indiquent une petite fragilité. Alors, on ne va pas parler des consommateurs les plus aisés aux États-Unis, mais les moins aisés, notamment, si on regarde les cartes de crédit et le crédit à la consommation, on a des petits signaux d'alerte qui nous disent qu'il faut faire quand même attention de ce côté-là aux États-Unis. Et donc, dans ce cadre-là, une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine cette année se justifie.
Jean-François, on dit tout le temps que l'économie américaine, les fondamentaux de l'économie ne justifient pas une baisse de taux. Est-ce qu'il y a quand même des éléments en ce moment qui pourrait plaider en faveur d'une petite baisse.
Oui, j'ai dans le sens de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'enlever les baisses des taux. Parce que ça, on va un petit peu vite en besogne. C'est-à-dire que là, ils repoussent le moment où ils vont le faire. Mais nous, on est vraiment persuadés qu'aujourd'hui, avec des taux à 5,5 aux États-Unis, on est déjà sur une politique monétaire assez restrictive, largement assez restrictive. Donc les idées qui pourraient remonter les taux, il faudrait vraiment que, de nouveau, il y ait une accélération des salaires, qu'il y ait une consommation, qu'il y ait un effet de second tour. Or, il y a quand même plein d'éléments aujourd'hui dans l'économie américaine. C'est pour ça que nous, on a enlever deux baisses des taux à notre scénario. Hein. On est toujours à se dire qu'on va baisser les taux de 4 fois cette année, en commençant dorénavant plutôt en septembre. Donc on est passé sur un truc où on est passé de 4 à 2. Donc on enlève. Ce que je veux juste dire là, c'est que je suis pas très clair, mais on change le scénario en enlevant des baisses de taux, ouais, mais on les maintient pour plus tard.
Il n'est pas question de rester à ce niveau-là ad vitam aeternam. On est d'accord.
Encore une fois, le taux de chômage aux États-Unis, il se tient bien, les créations d'emplois sont là, mais on voit encore aujourd'hui des annonces dans le gaming, typiquement. Ça fait 20 000 personnes qui sont licenciées. Le taux de chômage passe de 3,4, il est à 3,8 et on le voit plutôt continuer à monter. Pourquoi on le voit monter? Parce qu'on voit que l'intérim est en train de s'écrouler, que le nombre de jobs offerts par personne au chômage aux États-Unis est en train de se normaliser, que le taux de démission il a complètement disparu aux États-Unis. Donc il y a plein de petits indicateurs sur le marché du travail où ça se tend un peu. Et le consommateur, c'est ce qu'il faut regarder. Hein. Si jamais il y a moins de personnes en emploi, il consommera moins. Et si en plus de ça, il a, ce que je disais tout à l'heure, cramé une grande partie de son épargne, le taux d'épargne américain est revenu complètement à la normale, on est repassé sous les 5%, on avait 2200 milliards, pour dire des chiffres, d'épargne excédentaire aux États-Unis, on est à moins de 300, donc il n'y a plus grand-chose. Totalement différentes situations en Europe. Donc attention, le consommateur américain, il ne va pas continuer aussi fortement qu'année dernière. Le deuxième consommateur américain le plus fort qui avait soutenu la croissance, c'est le consommateur public, c'est le déficit public. Est-ce qu'en année électorale, Biden va réussir à passer des trucs? C'est pas si évident que ça. Donc attention, les deux gros moteurs de 2023, ils sont beaucoup moins forts en 2024. Donc non, il va y avoir des baisses de taux.
Parmi les publications macroéconomiques du jour aux États-Unis, on a eu les prêts hypothécaires, plus 3,3% sur une semaine, mais surtout le taux moyen des prêts hypothécaires à 30 ans aux États-Unis est à 7,13%, donc il repart à la hausse, c'est son niveau le plus élevé depuis le mois de décembre. Qu'est-ce que ça nous indique?
Vous voyez, on est en train de se dire, tiens, ça y est, le marché immobilier est peut-être en train de se dégeler en France avec la baisse des taux. Il faut juste se dire que nous, on repasse sous les 4%. Aux États-Unis, on est à plus de 7%. C'est des niveaux quand même assez historiquement hauts sur les 10 dernières années. Donc évidemment, le marché immobilier américain, l'idée est que ça va rebondir très fortement quand vous avez des taux de plus de 7. Alors oui, quand on compare à une base très très faible, on a des rebonds. Mais attention, la situation du marché immobilier américain, elle est très très compliquée encore. Et il faut se souvenir, quand on a des taux qui approchaient 5%, on a eu deux banques régionales qui ont fait faillite. Là aussi, tension sur le marché bancaire. Vous le disiez tout à l'heure très justement, on a des taux de défaut sur les cartes bleues, sur les prêts automobiles, sur les prêts immobiliers, sur les cartes bleues. On est sur des trucs de l'ordre de... On voit des trucs autour des incidents de paiement de 10%. 10% des cartes de paiement, il y a des incidents de paiement dessus. C'est des trucs qu'on n'a pas vu depuis 2008. La situation financière n'est pas confortable. On ne peut pas garder les taux aussi élevés si longtemps.
Ce qui sera intéressant, ça sera vraiment de voir la... On va rentrer dans la saison des résultats des sociétés, notamment des banques américaines. On a eu quelques banques qui ont publié. Et c'est vrai que ça va être vraiment intéressant d'avoir leur guidance, comme on dit, voir un petit peu les prévisions qu'on aura sur cette année, sur la fin d'année, et voir si vraiment ce rythme-là est soutenable à moyen, long terme aux États-Unis. On va s'intéresser un peu plus au secteur bancaire en particulier. On parlait beaucoup de la tech récemment, et ça va être toujours un des moteurs de la productivité américaine. Mais c'est vrai que la saison des résultats sera assez clé pour voir où est-ce qu'on va atterrir en fin d'année.
Et cette question des taux, elle est essentielle aussi pour les entreprises, puisque les coûts de financement pour les entreprises sont évidemment très élevés. On parle souvent de l'immobilier, mais ça concerne aussi les entreprises. Et c'est un niveau qui, pour certaines, qui ont besoin de beaucoup de capitaux, est difficilement supportable. Dans un instant, on va parler des conséquences pour la Banque Centrale Européenne. Est-ce que Christine Lagarde a du coup moins de marge de manœuvre si la Fed ne bouge pas ses taux cette année? On va en débattre juste après ce point sur les marchés financiers. Ligne droite avant la clôture. Plus 0,86% pour le CAC, on est tout juste à 8000 points. En progression grâce au titre LVMH, on l'a beaucoup dit, 3,2% de hausse. LVMH qui a publié hier soir un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 2% par rapport à l'an dernier en raison d'une base de comparaison défavorable en Chine. Deutsche Bank a peut-être bien résumé la situation, dit qu'il s'agit d'un trimestre faible en termes absolus mais qui finalement est robuste en termes relatifs. C'est pas si mal que ce qu'on pensait au départ. Du coup, le titre qui avait d'abord ouvert en baisse est reparti à la hausse. Il entraîne dans son sillage d'autres valeurs du luxe, notamment Hermès qui gagne 2,2%. À l'autre bout du tableau, du côté des valeurs en baisse à Paris, Essilor Luxottica perd pratiquement 1%. C'est une valeur qui publiera demain sur le marché parisien. Dassault Systèmes perd 1,1%. Téléperformance perd 2,2%. On y reviendra en détail, bien sûr, avec Étienne Braque à Euronext dans quelques minutes. La BCE. La BCE qui essaye de rassurer et qui essaye surtout de démonter un discours qui est en train de se répandre. Si la Fed ne bouge pas ses taux cette année aux États-Unis, la Banque Centrale Européenne aura peut-être moins de marge de manœuvre. Geoffroy Lenoir, est-ce que c'est votre sentiment ?
En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on a complètement changé d'univers depuis quelques semaines, quelques mois. En début d'année, ça paraissait assez improbable que la Banque Centrale Européenne baisse toute seule ses taux. Même il y a eu quelques commentaires de banquiers centraux qui disaient non, on baissera pas avant la Fed.
Et c'était même pas ça le débat. On se demandait si elle oserait y aller en premier.
Voilà.
Et là, et même on parlait du mois de juin. On parle d'une stratégie seule.
Voilà. Elle jouerait seule. Stratégie seule. Aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de sens. Aujourd'hui, en fait, toutes les conditions sont réunies pour que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux toute seule. On voit ce qui est anticipé dans le marché nous paraît assez cohérent. Une baisse dès le mois de juin, je pense que ça a été assez clairement indiqué par la Banque Centrale Européenne, par Madame Lagarde, au cours de la dernière réunion. Et une baisse qui serait suivie de encore peut-être deux ou trois baisses en 2024. C'est vrai que le contexte est complètement différent en Europe par rapport aux États-Unis. En Europe, on a une croissance qui est quand même déjà assez molle. On parle pas forcément d'atterrissage ou de redécollage ou de tout ce qu'on veut. On est sur une croissance qui est déjà assez faible. On a, comme on le disait tout à l'heure, des entreprises qui doivent se refinancer à des taux assez élevés et on a un mur de la dette qui pourrait arriver en 2025-2026. Mmh. Si on prend toutes ces composantes-là, il est assez évident pour nous que la Banque Centrale doit baisser ses taux cette année, redonner un petit peu d'air à l'économie, redonner un petit peu d'air aux sociétés qui émettent de la dette en zone euro. Et ça, pour nous, ça justifie que la Banque Centrale Européenne agisse toute seule, de façon complètement décorrélée des États-Unis, en tout cas sur 2024, avec le rythme qu'elle doit avoir vis-à-vis de ses objectifs d'inflation, parce qu'on parle bien d'objectifs de l'inflation, hein, on ne parle pas d'objectifs de croissance, mais il y a aussi, en sous-jacent, cette dynamique bien évidemment qu'il faut garder en tête sur ce côté vraiment très restrictif de la politique monétaire actuelle en zone euro.
Jean-François Robin, Christine Lagarde hier a rappelé qu'elle n'était pas dépendante de la Fed, mais est-ce qu'en pratique la décorrélation entre les deux banques centrales a ses limites ?
Alors, ça a ses limites dans le sens où les économies européennes, américaines sont très corrélées. Hein. On est dans une économie toujours mondialisée jusque-là en tout cas, avec des chaînes de production, des chaînes de valeur, des échanges très importants. On est à 250 milliards entre l'Allemagne et les États-Unis, etc. On a plein d'indications comme quoi on est très très dépendant. Et dans l'histoire, historiquement, on n'a jamais une économie américaine qui n'influe pas l'économie européenne ou vice-versa. C'est-à-dire qu'on a deux énormes blocs économiques, hein, encore une fois.
On vit sur la même planète.
Voilà, on vit sur la même planète. Si vous prenez l'Union européenne, hein, c'est une économie qui est encore plus grosse que l'économie américaine en poids de PIB. Hein, donc c'est des deux énormes mastards. Hein, donc ça évolue de concert. Cela étant, ce qu'on voit bien, c'est quand même ce découplage qui est en train de se faire, c'est-à-dire que, en tout cas dans le temps, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas différemment, on fera très différemment, mais en tout cas dans le temps, ça peut être différent. Pourquoi ? La croissance américaine va être le double de la croissance européenne, donc on n'est pas dans le même moment. Et surtout, quand vous êtes un banquier central, ce que vous regardez, c'est évidemment l'inflation, et surtout, d'où vient l'inflation. Or, aux États-Unis, c'est très clair depuis un moment, c'est vraiment un choc de demande, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un surplus de demande. On le voit bien, le consommateur américain, j'en parlais juste avant, les ventes au détail qui continuent à remonter, le consommateur américain qui a tout dépensé son épargne, il continue à consommer, à faire du crédit, etc., de façon assez impressionnante. Si vous comparez ce qui se passe en Europe, c'est totalement différent. Les ventes au détail augmentent aux États-Unis, elles s'écroulent en Europe. La consommation de biens et de services a nettement ralenti en Europe. Et donc, vous n'avez pas du tout retrouvé même les niveaux de consommation qu'il y avait avant le Covid et certainement pas ce que ça aurait été sans le Covid. Alors qu'aux États-Unis, si je puis me permettre, le consommateur américain, non seulement il a effacé la crise du Covid et il n'a pas eu la même crise énergétique, il est 5 points au-dessus. En Europe, on est à peine revenu sur le niveau de 2019, mais on n'a pas du tout effacé tous ces chocs-là. Et donc, vous n'avez pas du tout d'excès de demande. Or, c'est une banque centrale, elle doit combattre un excès de demande. Elle n'a pas du tout ça. Donc, la BCE, c'est hyper clair. Ils vont baisser de 25 points de base en juin et c'est le début d'un cycle de baisse des taux. Et pour répondre à votre question, j'étais un peu tourné autour. Ça fait évidemment partie de ce que prend en compte une banque centrale, les effets de second tour. C'est-à-dire que si jamais je baissais les taux avant la Fed, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, mon euro risque...
Ça va fragiliser l'euro.
Voilà, l'euro risque de s'affaiblir. On le voit là dans le repricing du marché. Hein, depuis qu'on a enlevé quasiment trois baisses des taux dans ce qui était intégré par le marché, on voit l'euro qui s'affaiblit. Mais honnêtement, à la marge quand même, c'est pas un truc de dingue. Et on n'est pas du tout en train de... C'est pas le principal truc que regarde la BCE. Elle va regarder la dynamique économique. Mais surtout, encore une fois, hein, ce que disait très bien Trichet, il y a qu'un seul compas, c'est l'inflation. Mmh. Or, l'inflation en Europe, ça baisse. Donc, ça l'empêchera absolument pas d'agir avant la Banque Centrale Européenne. Et d'ailleurs, on disait toujours, la Banque Suisse, jamais de la vie, elle bougera avant la BCE.
Bon, bah voilà, tout le monde part sur
elle a bougé. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a des prévisions de croissance en zone euro qui doivent redémarrer à partir de la fin d'année. Et en 2025, il y a une croissance qui peut potentiellement retrouver la zone des 1-1,5%. Donc, ça, dans ce contexte-là, avec ces anticipations de baisse de taux. Donc, si la BCE ne délivre pas ces baisses de taux, c'est vrai que ça change vraiment les conditions.
D'ailleurs, dans les prévisions elles-mêmes de la BCE, elle prévoit un rebond de la croissance, mais c'est assez intéressant, c'est qu'elle dit si jamais on baisse les taux. Donc, il y a une espèce de truc un peu tautologique.
Un euro plus faible, si la BCE devait baisser ses taux de manière importante, peut-être pas, mais en tout cas, deux, trois baisses de taux consécutives, un euro plus faible, ça nous ferait importer de l'inflation. Notamment par la facture pétrolière, on paye le pétrole en dollars, donc il y aurait un effet pervers aussi sur l'inflation dans la
sur l'inflation oui, mais on est très français aussi, c'est-à-dire qu'on voit le côté pervers d'un euro faible, mais quand il est fort on voit tous le côté pervers d'un euro fort. En fait, un euro faible c'est aussi un regain de compétitivité des exportations. On voit bien aujourd'hui voilà ce qui porte nos exportations, il y a notamment l'armement, mais si vous parlez à Dassault ou à Airbus, un euro de 10% de moins, ça fait beaucoup de résultats en plus aussi. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison, c'est de l'inflation importée. Hein. 10% de moins, c'est 0,4% de plus d'inflation. Si en plus de ça, le pétrole monte, tout ça se rajoute, ça ne va pas tout à fait dans le bon sens. D'où les petites bosses de Christine Lagarde. Mais c'est assez intégré, je pense, par la BCE et par tout le monde.
Pour clore cette conversation, l'un et l'autre, vous attendez tous les deux une baisse de 0,25% lors de la prochaine réunion de la BCE qui aura lieu le 6 juin.
99,9% de chance que ce soit le cas. Oui, 25 BP en juin.
Oui, 95% de chance.
Dans un instant, on va passer à la data room. Le chiffre que vous avez choisi de commenter l'un et l'autre à l'antenne. Mais d'abord, Étienne Braque nous appelle depuis Euronext. Étienne, on est de nouveau sous la barre des 8000 points et il reste 10 minutes avant le fixing.
Ouais, 11 minutes précisément, et en effet les 8000 points ne sont pas gagnés ce soir. Plus 0,8% pour l'indice parisien, 7995 points après, souvenez-vous, une baisse de 1,4% hier soir. C'était pourtant bien parti avec la hausse de 5% d'LVMH, mais désormais la valeur gagne 3%. Wall Street s'est désormais retourné dans le rouge avec notamment un haut fonctionnaire de l'administration Biden qui évoque de nouvelles taxes douanières sur l'importation de produits en acier, en aluminium en provenance de Chine. Donc vous voyez, en plus des problèmes monétaires, en plus des problèmes d'inflation, il y a à nouveau le sujet des guerres commerciales qui s'invitent autour de la table. À noter le pétrole qui se détend un petit peu, moins 1% à $89, et puis l'obligataire également. Le 10 ans américain perd 4 points de base à 4,62. L'euro-dollar essaye de se reprendre très légèrement, 1,0639. Et donc l'indice parisien qui est à la porte des 8000 points, 7995 points à 11 minutes du fixing.
Merci beaucoup, Étienne Braque, en direct d'Euronext. Il est 17h25, on passe à la data room. Vous avez l'un et l'autre choisi un chiffre, une publication que vous souhaitiez commencer. On commence avec vous, Jean-François Robin. 253 milliards d'euros, ce sont les échanges commerciaux entre l'Allemagne et la Chine.
Oui, j'ai trouvé que ce chiffre un peu intéressant, de la visite du Premier ministre allemand en Chine, qui essaie un peu de raviver la flamme entre les deux pays. Et on voit que la Chine est redevenue, c'est toujours une petite compétition entre la France pour être le premier partenaire commercial de l'Allemagne, les États-Unis, la Chine. Ça y est, c'est de nouveau la Chine. Mais c'est intéressant à plusieurs égards. La Chine est le premier partenaire de l'Allemagne. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit bien, Étienne le disait juste avant, la guerre commerciale, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait des annonces de guerre commerciale, du monde qui se ferme à lui-même. De miser finalement sur le commerce extérieur avec la Chine, c'est quand même un vrai pari. Après, je suis manqué d'avoir dépendu du gaz russe pour produire ces biens industriels. Et donc, je me demande si ce n'est pas un pari un peu perdant quand même de nouveau de l'Allemagne, d'essayer de continuer à augmenter ces échanges avec la Chine, alors que le monde se ferme, que la Chine elle-même, on disait, ce qu'est en train de faire Biden. Imaginez ce que fera Trump. Hein, il parle de taxes à 60% sur. Donc évidemment, on aura une guerre commerciale avec l'Europe. Hein, même 10% de taxes sur les produits européens. Donc ça concernera les produits allemands. Donc on est vraiment sur une économie hyper tournée vers l'extérieur et notamment la Chine. Et la Chine a annoncé typiquement aujourd'hui encore, on apprend que finalement les téléphones d'Apple, les téléphones sont interdits dans tous les bureaux parce que ça pourrait être un logiciel espion caché là-dedans. Donc on voit bien que le monde est en train de se fermer l'un à l'autre. Enfin, le monde se ferme globalement. Et donc quelque part, je trouve que c'est très intéressant de voir une Allemagne qui est en train de dépendre de la Chine et que le monde se ferme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit plutôt qu'on est sur des bouleversements qui marchent pas très bien pour l'économie allemande. Hein. C'est le FMI l'a dit. Ça va être l'économie qui va le moins performer cette année. Et donc le pari qui est fait, pour l'instant, est pas du tout gagnant. Et donc, compte tenu de ce que je disais sur la démondialisation et la guerre commerciale, qui quoi qu'il arrive, même si Biden reste, elle continue. Et si c'est Trump qui arrive, c'est pire. C'est pas super super perspective pour l'économie allemande, je pense, de ce point de vue-là en tout cas.
Avec des conséquences très politiques. On voit bien que l'Allemagne est opposée lorsqu'il s'agit de taxer les panneaux solaires chinois qui sont 4 fois moins chers que ceux qu'on produit en France. Pareil, position réservée de l'Allemagne sur les voitures chinoises et la question d'une taxe carbone aux frontières.
Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en même temps, on a eu le premier BYD, c'est-à-dire qui a livré 3000 voitures chinoises électriques qui a débarqué en Allemagne. Tout d'un coup, ils se sont dit, mince, on est vraiment attaqué sur notre marché aujourd'hui, et puis ça va continuer. Et donc, il y avait une espèce de un peu de wake-up call du côté allemand, de se dire, bon, en fait, ça sert à rien trop qu'on s'oppose aux taxes, parce que ça va être une vague trop forte pour nous, on ne va pas y gagner. On voit très bien que les parts de marché ont été divisées par 10 quand vous voyez des Volkswagen, des Mercedes sur l'électrique. 90% des voitures électriques aujourd'hui vendues en Chine sont faites par des Chinois. Et donc, ils sont en train doucettement de se faire sortir de ce marché-là, à la fois commercialement et sans doute aidés par une certaine forme de dumping, puisque c'est ce qu'a l'air de penser la Commission européenne avec de bonnes raisons à cela. Donc voilà, on voit bien quand même que les Allemands avaient... Ils sont en train de naviguer entre deux eaux. Ils n'ont pas choisi. Et je trouve que ce chiffre-là montre bien l'énorme dépendance de l'Allemagne au commerce mondial qui se ferme et à la Chine qui, là-dedans, est peut-être le parangon de la fin du monde, de la mondialisation telle qu'on l'a connue.
Ouais, c'est ce que vous disiez. L'Allemagne a beaucoup plus à y perdre hein, si le monde se déglobalise et si on réduit nos...
C'est vraiment le symbole du pays ouvert sur les biens commerciaux et sur les échanges de biens avec des pays comme la Corée du Sud, etc. Mais l'Allemagne, en Europe, on voit bien que c'est un peu je dis pas l'homme malade de l'Europe parce que c'est toujours pareil, on sous-estime toujours les capacités de rebond de l'Allemagne, mais n'empêche que ils font moins 0,3 quand on fait 0,9 l'année dernière, ils vont faire plus 0,2 plus 0,3, on fera un petit 1% en France. Donc quand on se regarde, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure.
Geoffroy Lenoir, votre data room à vous. 220 points de base, c'est l'écart de taux, le spread entre la dette allemande à 10 ans et son équivalent américain.
Oui, alors je voulais mentionner ce chiffre-là parce qu'on en parlait à travers les banques centrales, les prévisions en termes de baisse de taux. Mais en fait, ça se caractérise aussi sur les taux longs, sur la partie à 10 ans. Et on a un niveau d'écart entre le taux américain à 10 ans et le taux allemand à 10 ans qui retouche des niveaux pré-Covid. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'était les niveaux à peu près qu'on avait fin 2019. Donc 220 points de base. Donc pour resituer, on est autour des 4,65 autour du 10 ans américain et 2,45 autour du 10 ans allemand. C'est vrai que c'est une zone assez élevée historiquement. Si on regarde les points hauts qu'on a connus, qu'on a touchés dans le passé, c'était plutôt 2018, et on revient justement à cette période de guerre commerciale avec Donald Trump, où on avait atteint un spread, une marge, donc un écart entre ces taux-là de 280 points de base. Donc on n'en est pas là, mais c'est vrai que ça montre qu'il y a cet écart qui est assez symptomatique de la différence de dynamique entre les États-Unis et l'Europe, et la différence en termes d'anticipation de politique monétaire, que ce soit côté Réserve fédérale américaine et Banque centrale européenne. Donc c'est sûr qu'on a une prime, on va dire, de liquidité côté Allemagne, vu qu'on a un taux français qui est à 3% hein, autour, donc le spread est moins élevé. Mais on a quand même cet écart qui est matériel. Il faudra voir justement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si cet écart aura vocation encore à s'élargir ou au contraire à se resserrer. Mais ça, on verra en fonction des prochaines données macroéconomiques de croissance et d'inflation.
Là, vous faites une comparaison avec la référence allemande, le Bund à 10 ans. Évidemment, le marché de la dette, il est éclaté en Europe, donc oui. On n'a pas tout à fait le même spread si on regarde avec le 10 ans français ou le 10 ans italien.
Oui, c'est ce que je disais par rapport à la France, on est plutôt à 3%. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le spread, la marge avec l'Italie notamment, s'est resserré considérablement depuis quelques années et on a pu cette fragmentation, comme on a pu le connaître au cours de la crise de la dette souveraine dans le passé en zone euro. On a un écart de taux, par exemple, entre l'Allemagne et l'Italie qui est autour des 140 points de base. Finalement, c'est une marge qui est assez raisonnable. Alors, les élections européennes et toutes les discussions autour des budgets des États et de la zone euro vont peut-être remettre un petit peu le débat autour des niveaux de dette et va peut-être rebattre un petit peu les cartes sur ces niveaux de marge entre les États de la zone euro. Mais somme toute, c'est vrai qu'on est sur des taux qui sont beaucoup plus solides que par le passé. Je ne reviens pas à la crise de Lehman en 2008, mais c'est vrai qu'on a eu des niveaux de stress beaucoup plus élevés. Là, on compare vraiment les taux de la zone euro par rapport aux taux de la zone US, et on a cet écart qui est assez important, qui est assez matériel. Donc, c'est vrai que c'est symptomatique de ces politiques monétaires qu'on va avoir au cours des prochains mois.
Vous parlez de la faillite de Lehman, il y a aussi des inquiétudes. On peut comparer avec la crise de la dette en 2010-2011. Le FMI, cet après-midi, appelle à la modération budgétaire dans une année riche en élections. Est-ce qu'on n'est pas en train quand même de s'inquiéter de plus en plus sur le niveau de dette ? On en parle aux États-Unis, 1000 milliards de dollars de dette supplémentaires tous les 100 jours. En France, on voit bien, on est en plein dans le débat. Le gouvernement qui cherche des mesures d'économie, vu le dérapage budgétaire, ça devient à nouveau un sujet. Je ne sais pas qui veut répondre, mais...
Oui, c'est un sujet parce que si les taux montent, ça devient insoutenable. Et donc, il y a une espèce de boule de neige. Hein. En France, on paie autour de 51x1, nous, Français, les contribuables, on va payer 51 milliards. Il y a un budget de 51 milliards pour payer sur les intérêts de la dette. En 2027, on parle de 71 milliards. Donc, vous voyez, ça sera le budget de l'éducation nationale et peut-être de l'armée combinée qui arrive. Donc, ça coûte très, très cher. En revanche, ce qu'il faut quand même regarder, et moi, là où je mets un petit point un peu plus optimiste, c'est que ça coûte encore moins de 2 points de PIB d'intérêt de la dette. Ça nous coûtait beaucoup plus cher que ça en 95 quand on disait que l'État français était en faillite, etc., où on n'avait que 65% de dette sur PIB. Aujourd'hui, on a quasiment pas le double, mais on n'est pas loin de ça. Et finalement, ce qui compte, c'est le coût de la dette. Pour l'instant, ça va. Le problème du FMI, c'est, à mon avis, c'est pas tellement les pays développés, c'est les pays en développement, et là il y a des pays pour lesquels c'est 14 points de PIB les coûts d'intérêt de la dette. Et alors là, ces pays-là, il y a vraiment des risques de défaut, ce qui n'est pas du tout le cas des pays développés. Donc oui, c'est un sujet. Si les taux continuent à monter, c'est un sujet. Mais comme on pense que les taux vont baisser, faut raison garder.
Et puis évidemment, on a eu l'occasion de le dire, mais une quarantaine de pays qui ont des élections législatives ou présidentielles cette année dans le monde, c'est considérable, et la tentation est grande d'ouvrir le chéquier.
Le cycle politique, voilà, on appelle ça en économie.
Merci beaucoup Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis, et merci à vous Geoffroy Lenoir, co-directeur des gestions OPC chez OFI Invest Asset Management. Dans un instant, le fixing à la Bourse de Paris, le CAC, pour l'instant, est en dessous de la barre des 8000 points, on progresse de 0,79%. À tout de suite.
À suivre dans BFM Bourse, la clôture à Euronext. BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Ça y est, c'est terminé, on a mis les chaises sur les tables, la Bourse de Paris a fermé ses portes pour ce soir. Étienne Brack, on est au-dessus ou au-dessous des 8000 points ?
Bah, malheureusement, ils ne sont pas là, ces 8000 points. Juste en dessous, de peu, 7981 points ce soir, c'est une hausse de 0,6%, alors que l'indice gagnait plus de 1,5% aux alentours de 15h40. Et puis, l'ouverture de Wall Street a un petit peu cassé l'ambiance. Les trois indices américains qui avaient mis fin à trois séances dans le rouge repartent déjà à la baisse. Moins 0,5% pour le S&P, moins 0,3% pour le Dow Jones, moins 0,7% pour l'indice Nasdaq, avec de nouvelles pressions, guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. ASML qui plombe l'ambiance et qui perd plus de 6% ce soir à Amsterdam avec des résultats et puis surtout des perspectives en dessous des attentes. Ça plombe Nvidia qui perd 1,5% et ça pèse très clairement sur l'indice Nasdaq. Et puis dans le même temps, LVMH qui gagnait 5% à la mi-journée, clôture en hausse de 2,8%. Donc forcément, ça explique en grande partie le fait que le CAC 40 soit repassé sous les 8000 points ce soir au fixing. À noter les volumes d'échanges qui sont présents ce soir, 3,2 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien. Le secteur du luxe profite de la publication des LVMH. Hermès est proche de son record historique à 2342 euros avec une hausse de 2,3%. Le secteur des spiritueux est également au rendez-vous, plus 1% pour Pernod Ricard à 141,80 €. Et puis à l'inverse, le secteur de la tech est un petit peu sous pression, comme aux États-Unis, Dassault Systèmes perd 1,3%. Capgemini moins 1,2% à 202 euros. À noter l'obligataire qui se détend après les plus hauts annuels qui ont été touchés en début de semaine. Le 10 ans américain s'échange à 4,62. Le pétrole perd 1,3%. 0,3%. Et donc la Bourse de Paris qui clôture en hausse après la petite pause d'hier, hein, souvenez-vous, quasiment 1,5% de baisse, plus 0,6% ce soir au fixing, 7 981 points. Et puis à noter que demain, la Bourse de Paris comptera une nouvelle valeur, Planisware, qui fait son arrivée en bourse demain à l'arrivée à 9h, avec notamment un groupe qui compte lever un peu plus de 200 millions, valorisation espérée au-delà du milliard. C'est un petit peu inattendu, sachant qu'au mois d'octobre, au dernier moment, le groupe avait annulé son intention de venir en bourse.
Merci beaucoup, Étienne Brack, en direct du siège d'Euronext. Romain Daubry, marché dérivé et info d'expert de Bourse Direct, est avec nous. Si j'ai bien écouté tout à l'heure Romain, on est en dessous des 8000 points. Le prochain seuil, le prochain niveau à surveiller, c'est 7916.
Oui, c'est ça, effectivement, à peu près. On a préservé en clôture, malgré une invalidation quand même assez marquée, 7981 points. Donc on a la zone 7935, 7980 qui est un peu le dernier support avant une accélération plus marquée. Et la cible, c'est 7747 et pourquoi pas 7664. On a des niveaux intermédiaires. Maintenant, on reste dans une phase de consolidation. On le voit avec un indice qui a reperdu plus d'un pour cent par rapport à ses plus hauts. Et surtout dans un contexte, à mon avis, très propice au stock picking. Et on voit que le secteur du luxe n'a plus le momentum qu'il avait par le passé. Comme le disait Étienne, LVMH a pas mal rebaissé. On attend les résultats de L'Oréal demain avec intérêt.
Merci Romain, vous restez avec nous. On refait la séance tout de suite avec nos invités.
BFM Bourse, on refait la séance.
Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Rebonjour, vous étiez avec nous en début d'émission.
Rebonjour Stéphane.
Tommy Douziac, analyste financier chez Zone Bourse, est également en duplex. Bonjour Tommy, merci d'être avec nous. Et bien sûr Romain Daubry, marché dérivé, info d'expert chez Bourse Direct. D'abord LVMH, évidemment c'est la valeur qu'on a beaucoup suivie aujourd'hui. Chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 2%. Par rapport à la même période l'an dernier, Thibaut François, c'est lié à quoi ? Une base de comparaison défavorable en Chine ?
Oui, la Chine pèse. Les croissances sur les derniers premiers trimestres ces dernières années étaient quand même assez exceptionnelles. Donc à un moment donné, forcément, ça va ralentir un jour. Ça ralentit au premier trimestre. Alors c'est pas non plus un ralentissement fou. Moins 2% effectivement en publié, plus 3% en organique. Donc c'est une publication qui reste solide. Les bases de comparaison sont effectivement extrêmement importantes. On s'aperçoit que la Chine pèse. On s'aperçoit aussi que tout ce qui est spiritueux, la baisse est un peu plus marquée. On l'a vu déjà, on l'avait vu avec les Rémy Cointreau et compagnie qui avaient fait quand même des publications, on va dire, décevantes ces derniers trimestres. Donc LVMH est aussi dans la tourmente, mais la publication, malgré la base de comparaison très difficile, reste quand même correcte. Hein. On est à 3% de croissance organique, c'est pas si mal.
Ouais. Et le titre ce soir termine en progression de 2,8%, 804 euros tout juste. Tommy, vous êtes positif sur cette valeur, sur LVMH?
Tout à fait, on est positif sur la valeur. On est d'ailleurs actionnaire chez Zone Bourse. Donc au-delà de la publication qui peut paraître un petit peu pas extraordinaire, la consommation japonaise a porté aussi la croissance avec une croissance stratosphérique de 32% en organique qui vient notamment, et ça on le dit pas, mais de la consommation en fait chinoise. Il y a beaucoup de touristes chinois qui viennent au Japon. C'est une destination touristique phare pour les Chinois. Et donc, voilà, ça vient porter aussi ce chiffre d'affaires à 3% en organique. Donc, plutôt correct.
Romain Daubry, 804 euros ce soir en clôture sur LVMH. D'un point de vue graphique, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça nous indique ?
Ça nous indique beaucoup d'indécision. On a ce qu'on appelle un grand doji, c'est-à-dire une bougie avec des mèches longues et un petit corps au milieu. Ça veut dire indécision de la part des opérateurs. On gagnait plus de 5,35% sur le titre, on termine en hausse de 2,84%. C'est toujours une hausse, mais le titre était en train de tenter d'invalider la séquence baissière dans laquelle il se trouve depuis maintenant la mi-mars, et en débordant la zone 810 et surtout 816, ce qui a été le cas ponctuellement pendant la séance, et puis on repasse en dessous. Donc on est dans une zone neutre entre 787,50 et 816. Il faudra repasser 816 pour réactiver la dynamique haussière et aller chercher des extensions en direction de 850 et pourquoi pas 865. Si en revanche on repasse sous 787, il y a un mouvement de baisse de 8,5 à 9% pour aller chercher une zone qui est située entre 733 et 737,80.
Thibaut François, on voit LVMH en hausse de 2,8%, Hermès également, plus 2,3%. C'est toujours compliqué, évidemment, pour Kering. On voit bien que dans le compartiment luxe en France, on a toujours deux sous-compartiments.
Ah oui, bah clairement, on s'aperçoit que Kering sous-performe nettement ses compères parce que aujourd'hui Gucci n'a plus la dynamique qu'elle avait ces dernières années. La dynamique est en baisse donc sur Gucci. C'est pour rappel, c'est quand même plus de 50% de la marge d'EBITDA pour Kering, donc c'est pas rien. Donc c'est compliqué sur Kering. Le momentum est extrêmement négatif sur Kering. Ça ne repart pas pour l'instant. Il n'y a pas de signal aujourd'hui pour un redémarrage de Kering. Donc clairement pour nous, on est vraiment plutôt à préférer LVMH et j'ai presque envie de dire préférer même Hermès, qui a une meilleure dynamique et sur laquelle on est beaucoup plus à l'aise, notamment sur les prochaines publications sur le groupe Hermès.
De Richebourg, aujourd'hui très regardé, le groupe de services aux entreprises et aux collectivités a revu à la baisse ses prévisions de résultats. EBITDA désormais anticipé pour cette année entre 300 et 310 millions d'euros. L'objectif initial, c'était 350 millions. C'est lié à une cyberattaque dont le groupe a été victime à l'automne dernier et on nous dit aujourd'hui que le coût sera finalement plus élevé. Thibaut François.
C'est une très bonne raison pour vendre. De Richebourg. Au-delà des fondamentaux du groupe, la communication est clairement pas bonne. On est très régulièrement en contact avec les directeurs financiers, les directeurs généraux des entreprises. C'est une cyberattaque qui a démarré au mois de novembre, qui s'est finie au mois de janvier. On a des résultats de cette cyberattaque au mois d'avril. Ça plombe quand même les résultats et les EBITDA du groupe de façon conséquente. On n'a aucune information depuis le mois de novembre, je trouve que c'est pas normal et c'est clairement une vente on va dire de mauvaise communication du groupe de Richebourg au-delà des résultats et qui sont compliqués hein. De Richebourg, c'est une cyclique, que le cycle soit moins favorable aujourd'hui, c'est une évidence, mais je pense que de remettre ça sur la cybersécurité, je pense que c'est pas une bonne solution pour le groupe.
Tommy, vous aussi vous avez un doute, je vois que vous êtes négatif sur cette valeur.
Tout à fait, je rejoins mon confrère. C'est vrai qu'il y a eu l'impact financier de cette cyberattaque et également la conjoncture économique qui est moins favorable pour la production d'acier long, qui est dans le niveau d'activité est forcément lié à la construction. Donc ça se traduit par une baisse d'EBITDA. Donc sur le semestre, ça devrait faire à peu près 19 à 22% de baisse. Donc voilà, on pense qu'il y a cette conjoncture à la fois macroéconomique et cette cyberattaque. Donc on est plutôt aussi vendeur sur le titre.
4,19€ en clôture ce soir, on perd 4,3% aujourd'hui, 18% depuis le début de l'année et 22,7% sur un an. Romain Daubry, d'un point de vue technique.
Bien, c'est un titre qui a arrêté de baisser depuis le mois d'octobre dernier pour se caler dans un grand trading range 4,08, 4,92. Il tentait de réactiver une dynamique haussière depuis quelques séances et avant-hier, il a déjà ouvert avec un gap baissier, un trou de cotation baissier. Aujourd'hui, une fois encore, avec des volumes lourds, c'est évidemment pas un bon signal graphique. Reste que pour l'instant, le titre préserve 4,08 en clôture, tout juste. Maintenant, sous ce niveau-là, les risques d'accélération sont importants. On a 3,67 comme premier support et comme cible ensuite, 3,23. Donc, ce n'est pas un bon signal. Il faudrait vraiment redéborder 4,92 pour réactiver une dynamique haussière. On en est loin pour l'instant.
Le titre Emeis également en baisse aujourd'hui sur le marché parisien, c'est l'ancien Orpea. Le groupe a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année 2024. L'entreprise est confrontée à un problème d'occupation de ses établissements, c'est ce qu'on nous explique. 83,1% au premier trimestre. Tommy, vous aimez cette valeur ou est-ce que vous conseillez plutôt de rester à l'écart ?
Nous chez Zone Bourse, ça fait plusieurs années qu'on avertit les investisseurs d'éviter le titre. Donc on voit bien que la nouvelle direction fait un effort pour faire les choses dans le bon ordre. En réalité, voilà, changer de nom, ça suffit pas pour régler tous les problèmes. Avant même la révélation du livre de Victor Castanet sur les coulisses d'Orpea, la société ne dégageait pas de cash, donc elle avait problème sur ses cash flows. Donc là on voit que la société a révisé à la baisse ses objectifs et ses estimations pour 2024. Si on arrive à lire entre les lignes, on voit bien que les objectifs à moyen terme qui ont été communiqués via toute la documentation des augmentations de capital sera difficilement tenue. Donc voilà, on est plutôt vendeur sur le titre.
Thibaut François, Emeis.
Bah, d'un point de vue opérationnel, ça fait pas rêver. Effectivement, il y a eu beaucoup de dettes, donc réduction de la dette forte, augmentation de capital
considérable. Hein.
Exactement, 50% de réduction de dette, c'est énorme. On a une augmentation de capital qui s'est faite encore en début d'année. Donc aujourd'hui, ils ont les moyens de tenir. Effectivement, ce que vient de dire mon confrère, effectivement, il n'y a pas de cash flow positif sur la société. Maintenant, pour s'en sortir, cet ex-Orpea, il va falloir vendre des actifs immobiliers dans des bonnes conditions dans les prochaines années. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de vendre des actifs immobiliers. Donc, ils se sont donné du temps pour bien vendre ces actifs immobiliers qui sont quand même valorisés autour de 6 milliards. La CAPI est faible par rapport à cette valorisation d'actifs. Donc, j'ai envie de dire que c'est un dossier de très long terme sur lequel ceux qui sont rentrés dernièrement à la dernière augmentation de capital ne prennent pas de gros risques. Mais c'est vrai que ça ne fait pas rêver à court terme.
On va parler d'ASML, c'est l'une des valeurs qui a fortement baissé aujourd'hui en Europe. 6,4% de baisse. C'est une valeur de croissance. Vous nous le disiez un peu plus tôt dans l'émission, Thibault, quand il n'y a plus de croissance, ça pose un problème.
Ah, et la Valo aujourd'hui prend en considération une forte croissance dans les prochaines années. Alors la publication du premier trimestre ne remet pas en cause cette croissance. Tout le monde a alerté dans le secteur, pas de croissance en 2024. C'est le cas de Soitec, c'est le cas d'STM, c'est le cas d'ASML, c'est le cas de ASMI. C'est une année de transition. Par contre, on commence le premier trimestre avec une grosse décroissance du chiffre d'affaires. Donc, il va falloir faire de la croissance maintenant sur les trois prochains trimestres. Les objectifs ont été renouvelés pour l'année 2024. Mais c'est vrai qu'il va pas falloir perdre de temps. Il va falloir rassurer le marché dans les deux prochaines publications pour que l'objectif de chiffre d'affaires un flat pour l'année 2024 soit réussi et repartir sur des années de croissance. Sinon, le marché va se poser la question et va revenir sur une valorisation qui sera beaucoup moins importante dans les prochains mois. Donc, on va dire prochaine publication à risque pour ASML.
On va terminer avec vos pépites respectives. Tommy Douzièch, c'est le titre Eiko. Pour quelle raison ?
Alors, Eiko Corporation, ouais, c'est un titre qu'on a sélectionné. Donc, on aime bien les côtés au NICE, la valeur, sous le symbole HEI. Donc, c'est une société qui est beaucoup moins connue que de belles sociétés comme Nvidia, Novo Nordisk. Pourtant, le parcours est aussi extraordinaire. Donc, au départ, Eiko, c'était un petit fournisseur de pièces détachées pour l'aéronautique et c'est devenu un acteur phare en fait du secteur. D'ailleurs, c'est le plus grand fournisseur mondial de pièces de rechange pour les moteurs à réaction et composants qui est agréé par la FAA, donc la Federal Aviation Administration aux États-Unis. Voilà, c'est une culture d'entreprise exceptionnelle, dirigée par une famille en fait qui est au capital, qui détient 19% du capital, la famille Mendelssohn. C'est voilà, le marché des pièces de rechange, il est estimé à 14 milliards de dollars d'ici 2026. Donc ça veut dire un taux de croissance annualisé au delà de 4-5%. Eiko dans ce marché croît deux fois plus vite que son secteur, à peu près à 11% par an. Et la pandémie a mis en évidence aussi la nécessité d'un acteur comme Eiko, qui vient apporter des réductions de coûts pour les compagnies aériennes. Donc voilà, c'est une valeur qu'on aime bien, qui bénéficie de tendances long terme et court terme.
Et on termine avec votre pépite à vous, Thibaut François. Hoffmann Green Cement. Attendez, je vous ai pas donné la clôture sur Eiko. Moins 0,9%. C'est une valeur qui gagne 10% depuis le début de l'année et un peu plus de 16% sur un an. Hoffmann Green Cement, pourquoi c'est votre pépite, Thibaut?
Alors si... C'est une petite boîte dans la décarbonation de ciment. C'est une boîte vendéenne, donc une boîte de notre coin. C'est une société qui permet de diviser par 5 l'empreinte carbone sur la production de ciment. Donc on est dans un marché qui est quand même compliqué aujourd'hui en Europe sur tout ce qui est construction. L'objectif, c'est pas forcément de faire un 100% de part de marché. Bien sûr, c'est de rentrer dans le marché. Ils ont fait une usine test en Vendée. Ils vont en faire une deuxième dans le nord de la France. Ils viennent de vendre le modèle en Émirats Arabes Unis et une commercialisation qui va arriver aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le modèle est prouvé. Maintenant, on va dire, il n'y a plus qu'à se lancer d'un point de vue commercial, d'engranger les contrats. C'est ce qu'ils font depuis quelques années. Ça sera une société qui sera rentable dès cette fin d'année. Et je pense que c'est l'avenir dans la partie construction. Donc une société à découvrir, une société vendéenne, une société familiale et avec une valorisation qui est certes aujourd'hui un petit peu délicate parce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires est embryonnaire. millionnaire, mais par contre qui devrait fortement augmenter dans les prochaines années. Donc une vraie valeur de croissance avec une rentabilité qui sera positive dès la fin de l'année.
Ouais, 12% de hausse depuis le début de l'année avec ces derniers jours un parcours boursier un peu plus compliqué. On était à 13,20 € le 4 avril. On est en dessous des 10 euros, on est même à 9 euros aujourd'hui, 9,10.
Clairement, alors ce sont des petites et moyennes valeurs qui cotent de façon irrégulière, le volume est pas facile à trouver, donc il faut rentrer et sortir dans de bonnes conditions, c'est pas toujours facile, donc il faut faire attention pour rentrer, pour sortir du marché. Ce sont des petites et moyennes valeurs, moins de 150 millions d'euros de capitalisation boursière aujourd'hui.
Merci à tous pour ce débrief de la séance d'aujourd'hui à la Bourse de Paris. Merci à vous Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Merci Tommy Douzièche, il paraît que j'ai écorché votre nom tout à l'heure, toutes mes excuses, analyste financier chez Zone Bourse, et bien sûr Romain Dobry, marché dérivé, info d'expert chez Bourse Direct. Je vous rappelle la clôture de ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC termine en progression de 0,62%, 7981 points, le titre LVMH en tête des progressions après la publication du chiffre d'affaires, plus 2,8%. Du côté des valeurs en baisse, Capgemini perd 1,2%, Dassault perd 1,3%. Un coup d'œil sur le Brent qui continue de reculer. On est à $88,59. Il n'y a pas eu de réaction épidermique depuis le début de la semaine après l'attaque contre l'État d'Israël ce week-end. Et sur l'or, on est toujours relativement proche des niveaux records, $2,401 l'once. On est en recul de 0,3%. Dans un instant, Guillaume Paul et toute son équipe pour Good Evening Business. Je vous retrouve demain aux commandes de BFM Bourse à partir de 15h30. Très bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.